Donc, comment nous préparer à notre mort? Ça, c'est vraiment, je dirais, une question essentielle. Se dire, mais tiens, comment concrètement faire pour mieux se préparer à ma propre mort? Ouais, c'est pas évident, hein, comme question. Parce qu'on pense pas nécessairement à sa propre mort. Il faut quand même y réfléchir. Et il y a quatre mots qui me sont venus en tête à propos de cette question. C'est la vigilance, c'est la fermeté, le lâcher prise et la paix. Alors pour cette notion de vigilance, j'ai directement pensé à cette parabole que Jésus donne à propos d'être prêt pour son retour. C'est en Matthieu chapitre 24, verset 42. Il dit ceci: Veillons donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Donc veillez, veillez, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Vous connaissez tous cette parabole des 10 vierges. Il y en avait, sur les 10, il y en avait 5 qui ne sont pas préparées complètement au retour de leur Seigneur. Mais ici, dans la parabole, c'était à l'arrivée de l'époux qui devait venir chercher donc les vierges qui étaient invitées. Il y en avait 5 qui avaient préparé suffisamment d'huile pour rallumer, parce qu'elles se sont endormies, elles ont pu rallumer leur lampe, et les 5 autres n'étaient pas préparées, sont parties. Et puis elles se sont dit, ben, je vais vite revenir, et puis l'époux va pouvoir m'ouvrir. Et on voit dans le récit que l'époux leur dit, je ne vous connais pas. Ça, c'est sévère. Donc, je me dis, on pourrait faire l'association du retour de Christ avec notre mort. C'est la même réalité. Si ce n'est, vous allez me dire, ah oui, moi je serais content que Christ revienne aujourd'hui, on serait enlevé avec lui, et j'ai pas besoin de me poser de la question à propos de la mort. Mais notre mort, c'est terminé, il n'y a plus après de possibilité de faire quoi que ce soit. Donc notre mort et le retour de Christ, c'est deux événements qui sont semblables dans leur effet. Donc il y a cette notion pour notre mort de se poser la question, ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour être prêt? Et être prêt, ça nécessite pour moi avoir une réflexion, une attention, une prévoyance. Avec les vierges folles, on voit qu'elles n'ont pas réfléchi, elles n'ont pas eu beaucoup d'attention et de prévoyance. Alors je pose la question, est-ce possible d'être prêt à 100%? Alors j'ai pensé à une parole de Paul qui dit ceci, car pour moi, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul était complètement prêt, non seulement au retour de son Seigneur, mais il était prêt à mourir. C'est un homme qui pouvait dire à la fin de sa vie, et même là où il était arrivé, je suis complètement prêt au retour de trouver mon Seigneur et de mourir. Alors je me pose la question, est-ce que nous sommes prêts comme Paul à mourir et à rencontrer notre Seigneur? Est-ce que nous sommes prêts à 100%? Alors j'avais pensé à trois cercles. Notre cœur, Christ, et là on voit que c'est Paul qui remplit. Christ est ma vie. Alors je pourrais penser à moi-même. Ou alors on pourrait penser peut-être que parfois on ressent pas la plénitude de Christ en nous d'une manière continue. Parfois on a la sensation qu'on est un peu sur les sommets et que Christ est vraiment en nous et qu'on est en paix, on est prêt à le rencontrer. Puis il y a des moments dans notre vie où c'est pas tout à fait le cas. Donc j'avais pensé que Paul est rempli complètement de la présence de Christ en lui. Est-ce qu'on peut prétendre qu'on a tous cette notion de présence du Christ en nous? Il y a des personnes qui ont des degrés de foi différents, mais je suis convaincu que plus la présence de Christ dans notre cœur est une réalité, plus nous aurons des facilités à mourir et être prêts à partir. Parce que s'il n'est pas complètement rempli, ça laisse des questionnements et aussi un peu cette notion de dire, oh non, je suis pas encore complètement prêt, je préfère rester ici et on a nos petits centres d'intérêt, on aime bien ce qu'on fait ici sur cette terre. Donc on n'est pas complètement prêt. Hein? Vous allez me dire, c'est légitime. Mais lui, il était arrivé à cette dimension-là. Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Mais il dit aussi, ceci dit, quand il dit aux Philippiens, je suis prêt à mourir, à rencontrer mon Seigneur, mais il dit par après qu'il était meilleur pour eux qu'ils restent en vie pour leur avancement dans la foi. Il était prêt et en même temps, il voulait encore continuer à fortifier les chrétiens comme les Philippiens. Donc voilà ces petits schémas pour montrer que pour nous, ben, c'est pas toujours évident. Alors on peut faire la liste, hein, des choses qui ne sont pas évidentes pour nous de quitter cette terre. Ben, c'est clair qu'on n'a pas envie de quitter ce qu'on aime. Peut-être que quand on arrive dans un grand âge, on est plutôt prêt. Et quand on est en souffrance, quand je vois par exemple en soins palliatifs les personnes qui sont en fin de vie après de longues souffrances, ils ont un désir de mourir. Je suis pas nécessairement convaincu qu'ils sont prêts à vouloir rencontrer leur Seigneur, mais ils sont prêts à partir. Parce que pour eux, la souffrance est devenue tellement intolérable qu'ils sont prêts à partir. Mais nous qui ne souffrons peut-être pas de la même manière, on n'est pas à ce niveau-là pour être prêts. Donc on n'a pas envie de quitter ce qu'on aime, c'est son conjoint, ses enfants, ses petits-enfants, ses amis. Donc on n'est certainement pas prêt à quitter tous ces êtres chers. Et aussi, on n'a pas envie de quitter aussi les belles choses qu'il y a sur cette terre. Parce que j'ai fait une peinture un peu, je dirais, lourde de la terre sur laquelle on vit avec toute la corruption qu'il y a. Mais il y a des choses merveilleuses sur cette terre. On n'a pas envie, on a envie d'en voir encore beau, de voir beau coucher de soleil. On a envie encore de voir des fleurs et la gaieté des couleurs des fleurs. Il y a tant de choses qui sont belles qu'on a envie encore de voir et d'apprécier, de déguster. Donc on n'est pas à 100% prêt. Alors comment être plus prêt? Oui, j'avais pensé à cette notion, donc après la vigilance, donc cette notion de se préparer et donc d'être prêt. Et maintenant il y a cette dimension d'être plus ferme à l'idée de la réalité de la mort. Alors ça veut dire quoi ça? Parfois moi quand je pense à cette idée de la mort, j'ai ma propre fin ici sur cette terre, ça peut me donner parfois un sentiment un peu d'anxiété. Et là, je me sens pas ferme dans ma foi. Je me sens pas solide. Donc, j'ai besoin d'être plus ferme dans ma foi. On a besoin d'être plus solide dans notre foi pour être prêt à l'idée de la réalité de la mort dans notre vie. Il est dit en Éphésiens chapitre 6 au verset 13, « Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Ici, je dirais que le mauvais jour, il serait bien approprié pour le jour de la mort. De pouvoir tenir ferme, Angèle a dit tout à l'heure le test. Cette notion de test d'épreuve, c'est vrai que la mort, c'est vraiment la dernière épreuve pour nous sur cette terre. Et on a besoin d'être plus ferme, d'être plus solide dans notre foi. Et le moyen d'y arriver, quand il parle de prendre toutes les armes de Dieu, c'est prendre la justice de Dieu, prendre la parole de vérité, le bouclier de la foi, le casque du salut. Donc il y a des choses que Dieu nous donne ici et maintenant pour être plus ferme. Mais il y a une vérité, vraiment une vérité qu'on a besoin de se répéter plus souvent, qui se retrouve dans le cantique numéro 185. Ça aurait été peut-être bien d'en chanter. D'ailleurs, ce cantique, c'est « À toi la gloire ». Il est dit « Il est ma victoire ». Redit sans cesse, et ça c'est une autre strophe, redit sans cesse que Christ est vainqueur. De pouvoir se répéter que Christ est ma victoire, que Christ est victorieux et qu'il a remporté la victoire sur la mort. Donc on a besoin de vivre la victoire du Christ beaucoup plus dans notre vie. Et ça, je vous confesse, c'est pas suffisamment complet encore dans ma propre vie d'avoir cette dimension que Christ est ressuscité et que je vis cette victoire dans ma propre vie. Donc on a vraiment besoin de s'ancrer dans cette vérité, de se la rappeler. Quand on l'est ensemble, je pense que c'est le meilleur moment. Quand on chante des chants comme ça à la gloire de Dieu et quand on chante la résurrection, ça booste, hein, ça donne de l'énergie, on le sent bien. Et on a besoin d'avoir cette fraternité pour nous le rappeler et pour vivre cette réalité de la victoire du Christ. Quand on est un peu seul chez soi ou au travail, ben, on est vraiment dans la préoccupation de ce qu'on doit accomplir. On n'est pas en train de penser à la victoire du Christ tout le temps. Donc on a vraiment besoin dans notre vie, dans la prière et aussi collectivement dans la fraternité de se le rappeler. Donc le cœur affermi par la vérité, je rappelle cette parole de Jésus en Jean chapitre 11, 25, « Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort ». Ça, on a besoin de se rappeler que nous qui croyons en lui, nous vivrons même si nous sommes morts. Donc c'est la continuité de la vie éternelle. Donc être plus ferme. Et aussi, apprentissage de la confiance en Dieu. Et j'avais pensé le lâcher prise. C'est un terme qu'on aime encore bien dans le jargon au niveau infirmier. Quand, par exemple, en soins palliatifs, on a parfois le sentiment que les patients ne lâchent pas prise. Ou bien que les familles ne lâchent pas prise. Parce que les familles sont tellement attachées à leurs proches, à leur être cher, qu'elles ont du mal à le laisser partir. Donc, on a vraiment besoin, en tant que chrétien, de lâcher prise à l'idée de sa propre mort. Alors ça voudrait dire quoi? Ben déjà concrètement, c'est dans la succession des pertes dans la vie, depuis notre naissance jusqu'au terme de notre vie, on vit une succession de pertes. Que vous le vouliez ou pas, vous avez quitté le monde de l'enfance pour arriver dans le monde de l'adolescence, puis vous avez quitté l'adolescence pour aller dans le monde adulte. Et c'est ainsi de suite. Au travail, vous avez perdu peut-être votre travail, vous avez dû retrouver autre chose peut-être, qui vous a pas plu, mais il y a cette notion toujours de perte dans la vie. Il y a quelque chose que je trouve intéressant dans cette idée d'impermanence. Ça, c'est quelque chose que les bouddhistes aiment bien, cette notion d'impermanence. Mais ici, sur cette terre, rien n'est permanent. Et c'est vrai. Donc, on a des difficultés à vivre notre vie parce qu'on est tellement attaché aux choses qu'on aime et à toutes nos activités qu'on a du mal à lâcher prise et à perdre. Mais alors qu'en fait, c'est la force des choses. C'est comme ça. Les choses sont ainsi faites qu'on a besoin d'apprendre cette succession de pertes dans la vie. Donc, a besoin d'apprendre au lâcher-prise. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que parfois le lâcher-prise est important parce qu'on va faire quelque chose de mieux. Parfois, on est tellement. Je crois que ceux qui travaillent dans les entreprises, qui sont responsables, ils ont toujours affaire à cette résistance au changement. Que l'être humain, il est résistant au changement, il ne veut pas quitter ce qu'il a parce qu'il y a la peur de l'inconnu. Donc, on résiste et on croit toujours que ça va être moins bien ou pire. Alors qu'en fait, parfois, c'est pour un mieux. Donc, on a besoin de lâcher prise pour se dire que ben, ce que finalement m'est difficile pour l'instant de quitter, ben, je vais retrouver quelque chose de mieux. Et avec la mort, ben, on sait qu'on sera avec notre Seigneur. Ce sera encore même mieux, ce sera encore mieux. Mais on a du mal parce qu'on est trop attaché ici sur terre aux choses qu'on aime. Il y a ce verset que j'aime bien de David, il dit au psaume 31, versets 15 à 16, « Mais moi, je me confie en toi, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu, mes destinées sont dans ta main. » J'aime bien ce passage parce qu'il dit finalement que Dieu tient dans ses mains le temps et les circonstances de notre vie. Ça, on a besoin de se dire ça, de se répéter plus souvent, de faire confiance que Dieu, c'est pas moi qui contrôle le temps et les circonstances de ma vie dans laquelle je vais finir ma vie, mais c'est d'abord Dieu. Vous allez me dire, oui, on est responsable aussi de la manière dont les choses peuvent se passer, ça c'est vrai. Mais c'est Dieu qui tient dans ses mains le temps et les circonstances. Il y a quelque chose que je voudrais pour vous partager avec vous, c'est quand je prends l'avion, et surtout quand je suis certainement tout seul, je ne supporte pas prendre l'avion tout seul parce que je me fais toujours des scénarios pas possibles, qu'il va arriver quelque chose et tout ça. Donc, je me fais des scénarios. Donc, j'ai vraiment besoin de trouver des stratégies pour être plus tranquille, en paix avec ça. Et je prie à ce moment-là, j'ai dit, bon, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Et le fait de me le répéter plusieurs fois, ben, ça fait du bien. Vous allez me dire, oui, c'est une forme d'auto-persuasion. Mais je crois qu'on a besoin de se dire, de lâcher prise, ma vie est entre tes mains. Ça, je ne peux pas contrôler le pilote qui avec l'avion, je ne peux pas. Donc il faut vraiment faire confiance. Et je trouve que l'avion, c'est la plus belle image, je dirais, qu'on pourrait trouver à propos de la mort, parce que la mort, on ne contrôle pas. On ne contrôle pas. Oui, il y avait cette notion aussi, concrètement, pour moi-même aussi, c'est difficile quand je dis lâcher prise. C'est vrai, déjà ici... Sur cette terre, on n'a pas envie de quitter ce qu'on aime. Quand on laisse les filles aux États-Unis et qu'on leur dit au revoir, bon, on n'aime pas les quitter. On n'aime pas les quitter. C'est difficile. Et pourtant, on doit apprendre à lâcher prise, à dire, elles sont dans tes mains, Dieu, et de continuer. Enfin, voilà, c'est pas facile. Mais donc, faut vous dire qu'il y a des choses dans notre vie qui nous préparent pour ce jour de grand départ, c'est qu'on connaît une succession de pertes où il faut lâcher prise et on a besoin d'apprendre. On a besoin d'apprendre à travers tout cela. Et je crois que si on a du mal à lâcher prise, et là, parfois, c'est un peu, je peux me reconnaître là-dedans, il peut y avoir cette notion de nostalgie. Quand moi j'étais enfant, quand il y avait les grandes vacances, et qu'on rentrait à l'école, j'aimais pas cette sensation de devoir rentrer à l'école parce que j'ai tous les beaux souvenirs des vacances qui étaient finis, c'était fini, quoi. Et alors, je restais sur ces beaux souvenirs et j'oubliais d'être là dans le moment présent, de vivre le moment présent et d'être allé à l'école et de retrouver les copains et tout ça. Vous voyez que parfois, quand on est trop attaché aux choses qu'on aime, on reste attaché et on risque d'être un peu nostalgique. Donc, tout ça pour dire qu'on a besoin de lâcher prise, de faire confiance en Dieu. Et il dit aussi au psaume 37, verset 5, « Remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et c'est lui qui agira. » Si on se confie en lui, on peut avoir la certitude que c'est lui qui agira. Il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on voudrait maîtriser, mais on ne peut pas, mais c'est lui qui agira. Et alors j'aime bien aussi ce verset en 1 Pierre, au chapitre 5, le verset 7. « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. » On a besoin donc dans le lâcher-prise, dans la prière, de dire « Voilà, moi j'ai du mal avec ça, Père, c'est un souci pour moi. » Ça peut être justement une préoccupation à propos de la mort. Ça peut être d'autres préoccupations où on a des difficultés de lâcher prise. On peut mettre dans les mains du Seigneur tous nos soucis. Déchargez-vous de lui, de tous vos soucis, et il prendra soin de vous. Donc ça, c'est une promesse. Il prend soin de nous de différentes manières. Parce qu'on se dit, il prend soin de nous. Mais concrètement, comment est-ce que Dieu le fait? Il le fait déjà par son esprit. Il travaille en nous, à travers nous, pour nous consoler, pour nous encourager, mais il le fait aussi à travers notre conjoint, il le fait aussi à travers l'Église, et il le fait à travers aussi même le médecin. Même dans des moments qui sera plus durs peut-être pour nous en fin de vie, eh ben, le Seigneur, il aidera aussi le médecin à prendre les bonnes décisions, de faire confiance. Je voudrais partager avec vous. J'ai fait une appendicite il y a maintenant 2 ans ou oui, 2 ans. 2 ans, j'ai fait une appendicite qui a mal tourné, où j'ai fait une péritonite après. Et de nouveau, je partais dans des scénarios pas possibles. Je veux dire, voilà, c'est mon heure est arrivée et je voulais tout contrôler. Mais j'étais pas bien avec ça. Puis alors, je me suis dit, Pierre, maintenant tu arrêtes, tu remets tout ça dans les mains de Dieu, et par la prière, ben, ça m'a aidé. Et le fait déjà, psychologiquement, de dire, voilà, c'est dans les mains de Dieu, ben, effectivement, les choses se sont mises en place, ça s'est bien passé. Pour dire que parfois, ça ne sert à rien d'être dans la lutte personnelle, dans le combat personnel, pour dire, il faut trouver une solution par nous-mêmes, mais de pouvoir se dire, ben, c'est dans les mains de Dieu, c'est lui qui prend soin de nous, ça c'est important. Donc il le fait de différentes manières, ça, il ne faut pas l'oublier. Donc tout ça pour dire que c'est important, après, d'être plus ferme dans la vérité, dans la réalité de la victoire du Christ. On a besoin aussi donc de faire confiance en Dieu, donc de lâcher prise. Et alors maintenant, la troisième chose qui est importante pour se préparer à la mort, c'est aussi apaiser notre cœur devant lui et pour trouver la paix. Ça, c'est important d'être en paix à propos de la fin de vie. Je vois parfois en soins palliatifs des personnes qui ne sont pas toujours en paix. Et il y a de plus en plus d'histoires, de tristes histoires où il y a des patients qui sont en rupture avec un enfant ou avec leur famille. Il y a beaucoup de choses compliquées et parfois je vois qu'il y a des personnes qui sont plus agitées parce que elles ont, je dirais, un passé qui est assez lourd et qui peuvent justement provoquer ce manque de bien-être ou au moins de paix à la fin de vie. Donc on a besoin d'être en paix par rapport à l'idée de la mort et la réalité. Et alors, je pose la question de comment, et ça, c'est une notion qui vient en 1 Jean, chapitre 3, versets 18 à 21, cette notion d'apaiser notre cœur devant le Seigneur. Il dit ceci, « Petits enfants, n'aimons pas en parole, ni avec la langue, mais en action et en vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous apaiserons notre cœur devant lui. De quelque manière que notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et connaît tout. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. » Donc à l'approche de la mort et même en pensant à la mort, on a besoin donc d'apaiser notre cœur. Et le moyen d'y arriver, comme on voit ici dans le texte, c'est d'aimer notre prochain en action et en vérité. En vérité, c'est sans hypocrisie et en action, c'est plus qu'avec des mots. C'est bien de dire à son frère ou sa sœur, oui, je t'aime, mais c'est aussi encore autre chose de le manifester concrètement, cet amour. Donc, on a besoin d'aimer en action en vérité, et si on le fait, eh ben, on aura cette connaissance qu'on est de Dieu, qu'on appartient à Dieu, que nous sommes de Dieu, si on a cet amour vrai en nous. Et ça, c'est apaisant d'avoir cette réalité-là de vie en nous. Moi, j'étais un peu admiratif devant cette sœur que j'ai pu accompagner et qui était vraiment en paix dans sa fin de vie. Et c'est vraiment une dame qui avait vraiment fait le bien pendant toute sa vie et qui avait vraiment, vraiment aimé ses proches, mais aussi ses frères et sœurs. Elle était tellement, je dirais, dans cet amour, ben, que c'était naturel et qu'elle était en paix. J'ai envie de dire que plus l'amour sera en vous, plus vous serez en paix. Et donc ça, c'est important pour se préparer justement à la mort. Donc, aimer en action en vérité, faire le bien, c'est en 1 Pierre, chapitre 3, verset 10, que si vous voulez aimer la vie, écarte-toi du mal et fais le bien. Mais cette notion de faire le bien, ça va avec l'amour, parce que faire le bien découle de l'amour, mais quand on fait du bien, on a une certaine satisfaction, on est content d'avoir fait du bien à l'autre. Et donc, ça va avec l'amour, et si on recherche à faire le bien pendant sa vie, je crois qu'au terme de sa vie, on sera aussi plus en paix. Alors, j'ai marqué « travailler nos auto-condamnations ». Parfois, on peut se retrouver là-dedans, on a tendance à s'auto-flageller, soit parce qu'on est perfectionniste et on voudrait être un chrétien parfait, et on sait qu'on ne l'est pas, mais il y a cette tension en nous où nous voudrions arriver à cet idéal de chrétien vraiment engagé et qui a une relation conséquente avec Dieu et profonde avec Dieu, mais on voit que c'est pas toujours le cas. Donc, on peut être déçu de soi-même, parce qu'il y a des choses, encore des faiblesses dans notre vie. Et avec ce perfectionnisme-là, je dirais, on n'est pas complètement apaisé. Ou si ça peut être un esprit scrupuleux, ça peut être aussi une notion de culpabilité qui n'a pas bien été résolue, des choses dans le passé peut-être qui n'ont pas été bien résolues. Et aussi cette sensation de décalage qui crée une tension entre l'idéal et ce que nous sommes. Parfois, je trouve que dans l'Église, on est des frères et sœurs, mais on est pécheurs et parfois on oublie de dire, j'ai des problèmes aussi dans ma vie. Et je crois que parfois, en tant que chrétien, quand on est dans l'Église, on croit que tous les autres sont parfaits, qu'il y a que soi-même qui portons les pires problèmes. Alors que les autres, peut-être aussi, ont des combats dans leur propre vie et mais qu'on ne partage pas. Et on peut en sentir pas bien dans notre peau parce qu'on se dit, ils sont bien, mais moi, je suis pas si bien que ça dans ma propre vie. Donc, on n'est pas vraiment en paix, on n'a pas notre cœur complètement apaisé. Donc, on a besoin de travailler à ces niveaux-là. Je constate une réalité, je ne dis pas maintenant ce qu'il faut faire, il faut être plus transparent. Mais maintenant, comment y arriver concrètement, ça, c'est une autre question. Dieu nous connaît. Ça, j'aime bien quand Jean dit ça. Ça, c'est merveilleux quand il dit « Dieu nous connaît ». Parce que c'est vrai que nous, on est parfois sévères, on peut être sévère avec nous-mêmes et se dire « ça ne va pas » et être découragé et ne pas être complètement tranquille. Mais pourtant, Dieu nous connaît. Ça, c'est important de se dire « il voit notre bonne volonté, il sait ce que nous sommes, il sait qui tu es, qui je suis, il sait tout ça ». Donc, je crois que le fait de savoir que Dieu nous connaît, mieux que nous-mêmes, ça c'est important pour eux être aussi soulagés et être en paix. Alors, la prière, en Philippiens chapitre 4, verset 6, verset 7, il dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître à Dieu vos besoins par des supplications et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera vos pensées en Jésus-Christ ». Je l'ai dit un peu résumé, mais c'est cette notion qu'on peut se confier à Dieu dans tous nos soucis, lui confier nos soucis, lui confier. Et ce qui est important, c'est qu'il peut nous donner sa paix. Et c'est ça l'essentiel. Il ne va peut-être pas résoudre tous nos problèmes dans notre vie. Si c'est, par exemple, une souffrance en fin de vie, il y aura peut-être des choses qui seront lourdes à passer à travers. Mais ce qui compte, c'est d'avoir sa paix. Donc, conclusion, pour être prêt pour la dernière épreuve que représente la mort, on a besoin de mourir tous les jours un peu plus à soi-même et laisser vivre Christ en nous. Ça, c'est tout un programme de mourir un peu plus chaque jour à soi-même et laisser vivre en Christ et rechercher tout ce qui nous rend plus fermes, plus confiants et plus en paix pour être préparés pour notre fin de vie. Je vous invite à lire cette prière, la prière en guise de un peu de conclusion. Père, malgré la victoire que ton Fils nous a acquise par sa mort et sa résurrection, malgré les merveilleuses promesses que tu nous offres, il nous arrive d'être oublieux et faibles dans notre foi. Il se pourrait alors que nous soyons pas tout à fait prêts pour le jour de notre mort. Donne-nous donc, par ton esprit, un cœur plus ferme, nourri des certitudes de ta parole, nourri d'un amour à l'œuvre par le bien, et nourri d'une plus grande confiance en toi. Merci, Père.